Principe Actif, la radio associative d'Evreux.
On s'adresse aux insomniaques, aux rêveurs, enfin bref, à tous les gens qui écoutent avec leurs deux oreilles et pas seulement écouter la radio comme ça en fond sonore.
Principe Actif.
Au niveau de la radio, ça change un peu parce qu'on était à l'époque à l'écoute de... On trouvait ça un peu ragard et on voulait que ça change. Donc on a décidé de créer notre radio à nous.
Principe Actif, le mix des cultures.
Karen Dalton pour ouvrir une émission autour de piste qui lui est entièrement consacrée à travers le livre de Pierre Lemarchand sorti au mois de mars 2016. Première biographie justement de cette personnalité à part de la musique américaine. Elle a suscité l'admiration de ses pairs tout en restant dans la confidence au niveau du grand public. Pierre Lemarchand est mon invité ce soir aux côtés de Mélanie Leblanc qui a traduit les textes de son ouvrage Le souvenir des montagnes. Le tout en direct sur Principe Actif. L'émission sera ponctuée de quelques lectures de poésie en musique. Joséphine Foster, tout de suite sur Tour de Piste.
Maintenant, je fais des other day, he was so sorry I'd gone astray. He asked me if I needed help. I told him to go help himself. My sin was the sweetest love. It's what I've been thinking of. My sin was the sweetest love. That's what I'll be thinking of. Went to see the folks at home. They said I'd be doing wrong when they said they would forget. That's when I said live and let live. My sin was the sweetest love. That's what I'll be thinking of. My sin was the sweetest love. That's what I'll be thinking of. When I'm old and ready to die, I won't scream and I won't cry. I'll take with me what I know. Tell the angels that I loved him so. My sin was the sweetest love. That's what I'll be thinking of. My sin was the sweetest love. That's what I'll be thinking of.
Donc Pierre Lemarchand et Mélanie Leblanc sont les invités ce soir. Bonsoir à Pierre et Mélanie.
Bonsoir.
Très heureux de vous avoir à l'émission Tour de Piste. Donc Pierre Lemarchand, tu as écrit un long travail. Tu as écrit Le Souvenir des Montagnes, un ouvrage consacré à Karen Dalton. Tu vas nous en parler toute l'heure. Et Mélanie Leblanc, qui a été appelée pour traduire ses poésies. Et alors cette rencontre, alors c'est l'histoire d'une rencontre, Pierre Lemarchand, Karen Dalton, personnalité qui est assez peu connue du grand public, comme je disais en introduction. Comment ça s'est passé cette rencontre avec cette musicienne et qui est Karen Dalton d'ailleurs? Parce qu'elle est au cœur de beaucoup de paradoxes.
Alors tout d'abord peut-être comment je l'ai rencontrée, Karen Dalton, alors avec des images. En fait, il y a eu une chronique quand son disque avait été réédité en France en 2006, son premier album, elle n'en a fait que deux finalement, et son premier disque a été réédité en France en 2006, et donc quelques chroniques ont vu le jour, notamment une d'un musicien des Inrecuptibles qui s'appelle Stéphane Deschamps, qui avait écrit un très beau papier et qui m'a conduit jusqu'à sa musique, et donc je suis allé sur Google, je ne connaissais pas du tout. Et la première chose que j'ai entendue d'elle était en fait une vidéo, donc d'un extrait d'un reportage qui avait été filmé par la télévision française, là où elle vivait à l'époque dans le Colorado, dans les montagnes. Elle avait déjà décidé de tourner le dos au monde urbain et à la vitesse du monde de la musique. Et donc deux morceaux sont comme ça filmés par cette équipe de télévision française, le RTF comme on l'appelait alors, Blues Jump the Rabbit et A Little Bit of Rain. Et moi je suis tombé sur Blues Jump the Rabbit, qui est vraiment 4 minutes à mon avis de miracle, quoi. Et ça m'a énormément bouleversé, touché, j'y suis revenu de manière obsessionnelle, complètement irrationnelle. Et puis petit à petit bien sûr j'ai décidé d'en savoir un peu plus, j'ai découvert tout ce qu'elle avait pu faire comme musique. J'ai découvert aussi qu'il y avait assez peu de choses disponibles sur elle, sur sa biographie, et que finalement ces quelques éléments disparates qu'on pouvait glaner ici et là étaient quasiment tous erronés. Donc en effet, j'en viens à ta deuxième question, il y a assez peu de choses qui sont connues d'elle, et le paradoxe, le premier des paradoxes, c'est que le peu de choses qui traînent sur elle, pour une bonne moitié, sont des choses fausses. Elle a réussi à trimballer, en même temps qu'une méconnaissance totale du grand public, une certaine forme de mythologie. Parce qu'elle rencontrait, je pense, ce qui peut fasciner certaines personnes, c'est-à-dire le mythe de l'artiste maudit, quoi, celui qui est incompris, et que cette incompréhension va mener à sa perte. Et voilà, moi j'ai voulu en savoir plus, et petit à petit j'ai accumulé comme ça du matériel sur elle, sur sa musique, sur ce qui avait fondé son art. Et puis je me suis rendu compte petit à petit que j'étais en train d'écrire un livre, mais c'est elle qui m'a pris par la main pour l'écrire, ce livre. Moi, je n'avais jamais écrit de livre auparavant. Je ne sais pas si j'en écrirai d'autres, peut-être, oui. Mais voilà, ça s'est passé comme ça.
Take me to your darkest room. Close every window and lock every door. The very first moment I heard your voice, I'd be in darkness no more.
Take Me, extrait du deuxième album de Karen Dalton, In My Own Time, un des deux seuls albums qui sont sortis de son vivant, Pierre. Et justement, cette question, qui était exactement Karen Dalton ? D'où venait-elle ?
Alors là, on est en 1971. Karen, elle a elle a une trentaine d'années et ce sera son dernier album, en effet. Ce sera le dernier album qu'elle enregistrera. Elle est née à la fin des années 30 en Oklahoma, donc la terre de Woody Guthrie, dans une ville qui s'appelle Enid, donc très imprégnée par les Indiens d'Amérique. Il y a pas mal de populations noires aussi qui y résident et la plupart des habitants sont des paysans. Donc elle grandit comme ça dans un monde rural, très imprégné aussi des traditions musicales de cette vieille Amérique qu'elle portera toujours dans son cœur et ça va forger son identité à la fois son amour de la nature et puis ses amours musicales. Elle va apprendre de sa grand-mère le violon, le banjo, les rudiments de la guitare. Sa mère chantait également beaucoup, donc elle va aussi choper chez sa mère cette manie de chanter toujours. Et puis, elle va comme ça développer un talent incroyable. Dès ses 10 ans, peut-être, elle va commencer de chanter, de jouer dans les fêtes, dans les réunions de famille. Et puis, vers 19-20 ans, elle va quitter Enid, Oklahoma, pour aller tenter sa chance un peu plus loin, pour essayer de vivre de la musique, tout d'abord dans le Texas, puis dans le Colorado, et très vite à New York, là où au début des années 60 se joue ce qui s'appelle le revival folk, le renouveau folk, c'est-à-dire tous ces musiciens, on pense à Dylan bien sûr, on pense à plein d'autres, on pense à David Crosby. Woody Guthrie avait déjà jeté, lui, les premières bases de ce renouveau folk. Là où dans les petits cafés, voilà, dans Greenwich Village, des musiciens décident de reprendre ces vieilles chansons de l'Amérique parce que ces vieilles chansons sont toujours d'actualité, parce que les injustices sont toujours là dans cette Amérique, parce qu'elle n'est pas idéale, parce que le rêve américain n'est pas encore atteint, en fait. Et Karen, elle arrive là-dedans et la plupart des musiciens qui jouent dans Greenwich Village sont des étudiants, sont des mômes des classes moyennes et elle est véritablement authentique. À ce moment-là, elle vient véritablement de la campagne et ses chansons, elle ne les a pas apprises comme ça d'autres musiciens. Elle les a apprises quand elle était môme, elle les a apprises de ses parents et elle les joue depuis toujours. Et elle va un peu secouer comme ça cette scène de Greenwich Village, marquée pas mal de monde. Une scène qui est aussi assez masculine finalement. Quelques femmes jouent bien sûr, quelques femmes jouent de la guitare, mais leurs voix sont cristallines, quasi angéliques. Et la voix de Karen, on l'a entendue là, hein. Elle charrie déjà aussi pas mal d'histoires. Une certaine histoire de l'Amérique, celle du blues et celle de la folk music.
Ouais, elle réconcilie, alors la musique folk, c'est la musique du peuple, effectivement, avant tout. Et elle réconcilie les deux communautés noires. Le morceau qu'on vient d'écouter, extrait de son deuxième album, a des accents très très jazz et en même temps, elle est ancrée dans la musique folk. On pense aux joueuses de blues des années 30 qui mettent tout dans leurs chansons. Et elle est d'un père irlandais et d'une mère cherokee, donc elle est aussi tout le temps au cœur des paradoxes qui viennent nourrir justement son répertoire.
Des paradoxes et d'une certaine synthèse de l'histoire américaine. Ouais.
C'est une porte ouverte, hein, justement, on en parlait hors antenne, ça l'a été pour moi, hein. Je ne suis pas invité de l'émission, mais je tiens à le dire parce que c'est important, notamment à travers l'article de Stéphane Deschamps. La curiosité évidemment d'écouter cette vieille Amérique et d'y découvrir la porte, c'est grâce à Karen Dalton, moi, que je me suis retourné aussi vers les vieux 78 tours de Matty May Thomas, des joueurs de blues qu'on ne connaît absolument pas, qui ont fait un ou deux 78 tours dans le meilleur des cas, et dont il ne reste quasiment absolument aucune documentation ni aucune histoire. Justement, on va écouter Matty May Thomas, hein, qui chante, qui a fait deux 78 tours qui ont été hébergés par l'excellent volume de compilation American Primitives Dangerous Blues sur Tour de Piste.
Matty May Thomas.
And what name is
it? Dangerous Blues. You keep on talking about the Dangerous Blues. If I had me a pistol, I'd be dangerous too. Say you may be a bully, say, but I don't know. But I'll fix you so you won't give me no more trouble in the world I know. She won't cook no breakfast, she won't wash no clothes. Said that woman don't do nothing but walk the road. My knee bone hurt me and my ankle swell. Says I may get better, but I won't get well. Then Matty had a baby and he got blue eyes.
said, must be the captain, he keep hanging around. Said, must be the captain, keep hanging around. Keep on hanging around.
Matty May Thomas, Dangerous Blues, est un morceau vers lequel... Plus, enfin, c'est la porte de la source aussi. Hein. Plus on écoute de la musique, Pierre, je pense que ça a bouleversé tes goûts musicaux. La Tour de Piste, c'est une émission qui est volontiers introspective aussi sur ton parcours et ton rapport à la musique. Est-ce qui t'a donné envie d'écouter ces vieux blues et de revenir... Stéphane Deschamps disait que la meilleure année pour la musique, c'était 1933. On pensait que c'était ironique il y a 15 ans en lisant son article. Et puis petit à petit, on se rend compte effectivement que c'est peut-être vrai, ce besoin d'authenticité.
Puis il disait aussi des chants que ces chansons-là, Karen, étaient peut-être les derniers, la dernière à les avoir chantées comme elles étaient chantées presque un siècle auparavant. Ouais. Elle les chantait vraiment sans les arranger, elle les chantait vraiment avec les simples arrangements du cœur, ouais. Ouais, bien sûr. Et donc cette chanson-là qu'on vient d'entendre, j'imagine que Karen a dû l'entendre aussi jouée par d'autres musiciens quand elle grandissait à Enid. Et puis aussi peut-être, sa maman était une fan de musique, elle avait mis un petit jukebox comme ça dans la cuisine familiale. Et elle y passait toutes ses après-midi quand elle n'était pas à l'école, la petite Karen. Et ça aussi, ça a dû forger son oreille. Cette fascination pour la musique qui se transmet, quoi, live ou sur disque.
Et c'est la tradition orale, le folk. Hein.
Oui, ouais, bien sûr.
If I had a ribbon ball to bind my hair, if I had a fancy sight, my old true love would find me fair. My red shoes would go dancing ever my fancy would. My love would wish that taken me while he could. If I were like city girls, fair with smiles, not a man in all these parts would know my heart. My red shoes would go dancing where'er my fancy chose. I'd lark about the sidewalk, wear them fine clothes. If I were like girl, if I had a fancy sage, I had a ribbon bow to bind my hair. If I had a fancy sash, my old true love would find me fair.
Une beauté incassable, on a toujours l'impression d'écouter Karen Dalton pour la première fois, et pourtant Pierre, ça fait longtemps que tu écoutes Karen Dalton.
Ouais, c'était Ribbon Bow, donc intraditionnel vraiment, hein, dont on ne peut pas tracer la signature. Extrait de son premier album, It's So Hard to Tell Who's Going to Love You the Best, on est en 1969. C'est son premier album et pourtant, Karen Dalton, depuis 10 ans, elle joue de la musique de manière professionnelle, en tout cas de manière publique, ce serait peut-être plus exact le mot professionnel est toujours un peu compliqué à utiliser, comme le mot carrière, quoi, quand il s'agit de Karen Dalton. Donc, 10 ans ont passé avant qu'elle n'enregistre son premier disque. Pourtant, il y a plusieurs gars qui se sont cassés les dents, hein, qui lui ont demandé. Mais c'était compliqué pour elle d'enregistrer la musique, puisque pour Dalton, je pense que la musique était quelque chose qui ne pouvait pas s'emprisonner, qui ne pouvait pas se fixer, quoi. Comme le cours du temps ne peut pas être fixé, la musique était telle. Et ça a été assez compliqué. Et finalement, c'est des histoires d'amitié qui ont mené à l'enregistrement de ce disque. D'amitié et d'intimité. Il y a eu la bienveillance d'un ami, un grand ami de Karen Dalton, qui s'appelle Fred Neil. Et puis en studio, ils étaient très peu nombreux. Ils ont reproduit un peu la configuration dans laquelle Karen se sentait bien, dans laquelle elle jouait, soit dans les petits clubs, que ce soit dans le Texas, dans le Colorado, ou à New York, bien sûr. Et puis, bien sûr, les conditions dans lesquelles elle aimait jouer sa musique en privé, hein, chez elle, pour ses amis, sous les cieux étoilés du Colorado. Et donc, ce disque s'enregistre en 2 prises, une seule nuit, dans des conditions assez immédiates. Et il est vraiment à l'image de ce que Karen jouait à ce moment-là, depuis 10 années, en concert ou pas. Donc, des vieux traditionnels comme celui-ci, Ribbon Bow, des vieux blues. Quelques titres aussi emblématiques de la scène du Greenwich Village du début des années 60. Donc on retrouve des morceaux de Fred Neil et un morceau d'un autre de ses grands amis, un autre gars assez influent de cette scène-là qui s'appelle Tim Hardin, qui jouera à Woodstock d'ailleurs cette même année, 1969. Elle est encore une fois à ce moment-là un point de confluence entre tout ce qui fait la musique aux États-Unis, en tout cas tout ce qui permet de remonter ses racines, quoi.
Alors, c'est le présent, effectivement. C'est Dominica hein, qui a préfacé ton livre Souvenirs des montagnes. C'est pas un choix qui est étonnant, d'ailleurs, parce que quand Mélanie m'en a parlé, je me suis dit, tiens, Dominica, qui incarne le renouveau de la chanson française depuis une quinzaine d'années, pourquoi lui pour la préface? Et lui parle de Karen Dalton comme le présent. Et il dit d'ailleurs, Karen Dalton nous renvoie à notre propre image de la liberté.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a poussé à contacter Dominica justement pour la préface de ce livre?
Trois choses peut-être. La première, c'est que j'espérais une préface signée par quelqu'un qui ne soit pas attaché, étiqueté folk, pour montrer que la musique de Karen peut toucher bien plus loin, ailleurs, qu'elle est bien sûr présente et qu'elle a encore bien beaucoup d'avenir, cette musique. La deuxième, c'est que moi je suis un immense fanat de ce gars-là. Depuis son premier album, donc La Fossette, 1992, j'achète les albums de Dominica, voilà, comme un rituel. Il ne faudrait pas m'enlever ça, hein. J'en serais bien malheureux. Ça, c'est peut-être la deuxième raison. Et puis la troisième, c'est qu'il a écrit un article, peut-être les plus belles lignes françaises qui ont pu être écrites sur la musique de Karen, pour un article qui a dû paraître dans TGV Magazine. C'est étonnant, hein. Où il arrive à mettre des mots sur une musique qui échappe à tout étiquetage, quoi. Et c'est déjà un tour de force. Enfin, c'est un article vraiment très beau. Je me suis dit, voilà, il y a des signes du destin qu'il ne faut pas laisser passer. Je me suis dit, bon, Pierrot, tu n'as rien à perdre. Tu lui écris, quoi, Dominica, puis tu lui dis, ben voilà, je m'appelle Pierre. Je n'ai jamais rien écrit. J'écris un bouquin sur Karen Dalton. Tu vas m'écrire la préface, Dominica. Hein? Puis tu vas dire oui. Et ben, il m'a répondu, et sous 48 heures. Et il m'a dit, ben oui. Mais d'abord, tu m'envoies ton bouquin, si ça me plaît, si ça me touche, eh ben, je t'écrirai une préface. Et il a tenu parole, car c'est un homme élégant. Et voilà, ça s'est fait comme ça, quoi.
Et c'est l'histoire, il le dit dans sa préface, c'est l'histoire, elle est coincée dans ce paradoxe. Enfin, c'est la détermination, c'est une détermination et un effacement, Karen Dalton.
C'est une détermination et un effacement. C'est quelqu'un qui est assez clairvoyant par rapport à son propre talent, par rapport... à sa voix, l'importance et la singularité de sa voix. Et en même temps, c'est quelqu'un d'une fragilité incroyable qui est prise de trac à chaque fois qu'il s'agit de chanter devant plus de 2 personnes, qui se remet sans cesse en question. Mais je pense que c'est le lot des gens véritablement talentueux de ne jamais se reposer sur leurs acquis et de ne pas se satisfaire de quelques moules, quels qu'ils soient, quoi.
Il y a une honnêteté dans la démarche artistique qui n'est pas forcément si fréquente que ça dans le milieu de l'industrie du disque.
Voilà, et qui conduit souvent au chemin de traverse emprunté et forcément au succès évité.
Et alors, donc Mélanie Leblanc, Mélanie, bonsoir Mélanie, on fonce
tout à l'heure.
Donc tu as traduit les poésies de Karen Dalton. Karen Dalton n'a jamais chanté ses propres chansons. En revanche, elle a écrit des poésies. Pierre t'a fait appel pour la traduction des poésies qui ont été mises en musique. Hein. D'ailleurs, on va en écouter un extrait en live tout à l'heure. Ça s'est passé comment, votre rencontre à tous les deux, Pierre et Mélanie?
Tu racontes peut-être, non?
Non, on t'a pas beaucoup entendu pour l'instant.
En fait, on a une amie commune qui s'appelle Sophie Bosquet et qui m'a parlé d'un ami qu'elle avait qui écrivait sur Karen Dalton. Je dis quoi, Karen Dalton, j'adore. Il cherchait quelqu'un pour traduire ses poèmes. Enfin, voilà, c'est elle qui nous a mis en relation et ça a été une belle rencontre. Donc Karen Dalton, elle favorise aussi de belles rencontres. Grâce à ce projet, etc.
C'est peut-être encore un signe que sa musique est profondément et inévitablement actuelle. C'est qu'on a habité à 35 à 40 kilomètres, à tout casser l'un de l'autre. Et c'est elle qui est morte depuis plus de 20 ans, qui habitait à 4000 kilomètres, qui nous a finalement réunis autour de son art.
Oui, elle est toujours vivante, hein, d'une certaine manière.
Absolument, et elle le sera encore bien après nous, ouais, bien sûr.
Eh ben, je vous laisse vous mettre en place pour la première lecture de poésie de Mélanie, mise en musique avec Thomas de Haumont et Emmanuel Delaplanche.
Topanga Canyon. Amante des larmes, de la pluie ruisselant dans les roches secrètes, des arbres s'élançant des parois, des falaises pourrissantes, des feuilles, de la peur, des cendres, de la terre. Amante de la musique criant la discorde dans de vieilles grottes oubliées, par-delà la soif de reconnaissance, je pleure la lame aiguisée de mes aveux. Amante de la peur, je me jetais à son cou en frissonnant. Les fleurs de l'abnégation me faisaient saigner quand nous restions étendus, nus dans la nuit, sans amour. Au loin, la mer devenait des dunes. Le brouillard se déchirait en point de suspension. La route étroite était périlleuse. L'étoile de mer rejetée.
Donc Mélanie Leblanc pour une poésie de Karen, pour un poème de Karen Dalton en musique. Effectivement, donc une artiste toujours aussi vivace à travers la scène indépendante. Parmi les nombreux échos dans le monde contemporain de Karen Dalton, quels sont pour toi ses plus dignes successeurs?
Oh, c'est une question difficile, mais peut-être Cat Power. Peut-être la Cat Power des années 90. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment une filiation, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui les unit, c'est-à-dire cette attention absolue portée à la voix, à la musique de la voix, et puis la guitare pour soutenir tout ça. Oui, je pense qu'il y a... Et puis quelque chose de très singulier, de très intime. Elle était quand même... Il n'y avait pas grand monde hein, qui faisait ça à cette époque-là. C'est bien sûr la mouvance Bill Callahan, Bonnie Prince Billy, qui s'appelait à l'époque tout simplement Will Oldham. C'est toute cette mouvance de l'alternative country, du troisième renouveau folk, hein, au début des années 90, fin des années 80, quand à nouveau les musiciens ont choisi tout débrancher et reprendre l'histoire là où elle avait commencé. Le plus simplement possible en offrant au silence la place qu'il mérite, quoi. Ouais, moi, je pense que toute cette école-là, et Cat Power parce que c'est une voix féminine, bien sûr, et parce que j'ai été profondément touché par cette voix-là à une époque, quoi. Et peut-être que quand j'ai découvert Karen Dalton, ça m'a fait à peu près les mêmes émotions. C'est-à-dire quelque chose, on a l'impression qu'elle chante quelque chose pour nous seuls.
Et quelqu'un d'assez fragile aussi, hein, je pense que tu l'as vu sur scène, elle est extrêmement mal à l'aise sur les grandes salles. J'avais vu au Printemps de Bourges avant Placebo et on pouvait en vouloir au programmateur de l'emmener comme ça à l'abattoir. On l'aurait vu dans un club de 50 personnes en fumée d'un état paumé des États-Unis.
Elle aurait été plus à l'aise, oui, bien sûr. Il y avait encore une fois cette incapacité foncière à faire rentrer la musique dans une boîte, dans la boîte qu'avait dessinée l'industrie du commerce, l'industrie du disque, bien sûr. Il y a cette difficulté à mettre en connexion la musique et l'industrie et déconnecter la musique de la vie même et de sa simplicité élémentaire et indispensable, oui.
Deux mondes, Cat Power aussi, entre le blues et la musique folk, extrait de son album What Would the Community Think, la troisième vague revival folk, effectivement, et l'effet d'une claque quand c'est sorti en 2000 sur l'excellent label Matador. Et donc un coup de cœur hein, aussi pour toi, pour nous tous ici. Et cette histoire justement de Karen Dalton dont on parlait, c'est aussi dans un contexte américain assez particulier. Et toi, une question vraiment que j'avais envie de te poser, un garçon de Rouen qui fait de la radio et qui décide d'écrire un bouquin sur Karen Dalton. Quels sont les échos des gens qui savent qu'il a écrit ce livre chez Camion Blanc? Je pense qu'ils sont très contents justement de Karen Dalton et sa biographie décrite.
Ils sont heureux et puis ils m'ont aidé à l'écrire parce que sans toutes les personnes qui ont témoigné pour l'écriture de ce livre et qui ont survécu à Karen. Sans leur témoignage, ce bouquin n'aurait pas pu s'écrire. Donc, on peut citer leurs noms parce qu'ils ont été d'une gentillesse, d'une humilité, d'une disponibilité, moi, qui m'ont incroyablement touché. Mais comme Dominica l'a été, finalement. Hein, ce livre n'a été, mais comme la rencontre avec Mélanie, ça n'a été que des portes comme ça qui s'ouvraient si facilement et qui m'ont donné tellement d'énergie et de courage. Alors, par exemple, il y a Dan Hankin, qui était son guitariste, le gars qu'on voit sur la vidéo Blues Jump the Rabbit, cette fameuse vidéo par laquelle tout a commencé pour moi, Danny Hankin, je l'ai retrouvé et il m'a confié plein de photographies, plein de souvenirs qui étaient fondamentaux, qui m'ont permis justement de battre en brèche toutes ces espèces de mythes d'artistes maudites qui traînaient ici et là pour remettre la vérité à sa juste place. Dan Hankin, qui était aussi le guitariste de Tim Hardin. Pour ceux qui aiment cet artiste, Tim Hardin, il y a son album Tim Hardin 3 en live. C'est Danny Hankin qu'on entend la guitare derrière lui. Et puis Peter Walker, qui est un très grand guitariste aussi des années 60, un grand ami de Karen, qui l'a accompagné sur les dernières années de sa vie. Et forcément, dont le témoignage a été absolument fondamental. Et c'est lui qui m'a mis dans les mains ses poèmes, qui m'a fait confiance finalement. Et qui m'a envoyé aussi pas mal de copies des pages, des carnets que Karen a écrit jusqu'à la fin de sa vie. Des poèmes, bien sûr, mais aussi des journaux intimes, des petits moments comme ça saisis de sa vie quotidienne, à la fois de l'aspiration qu'elle avait jusqu'à la fin, même quand c'était difficile, une certaine aspiration à la beauté, et puis bien sûr des moments beaucoup plus crus d'une vie malmenée. Voilà. Moi j'ai pu collecter tout ça grâce à tous ces gars-là, et j'en passe, bien sûr, beaucoup d'autres, des témoins qui m'ont permis d'emmagasiner la matière pour l'écriture de ce livre, ouais.
Et donc, bientôt, j'espère, une traduction en anglais de cet ouvrage.
Ils aimeraient bien ces gars-là, ouais. Parce que les quelques-uns à qui je l'ai envoyé, qui m'ont aidé à l'écrire, finalement, on peut le dire comme ça, ont fait l'effort de lire en français. Et ça les a remplis d'une grande fierté aussi, d'une grande joie pour leur vieil ami, qui, aux États-Unis, plus qu'en France encore, est absolument méconnue. Elle est plus connue en France qu'aux États-Unis, je pense. Et bien sûr, il me pose la question, mais ça ne tient pas qu'à moi, ou ça ne tient presque pas à moi. Moi, j'espère que ce livre trouvera son écho. Déjà, je pense qu'il le trouve. Il fait son chemin. La musique de Karen, à ses côtés, fait son chemin. Et peut-être, en effet, pourrons-nous le traduire.
Bon, on va reponctuer l'émission par un poème en musique de Mélanie, accompagné par Thomas Emmanuel.
Tout ce qui brille n'est pas vrai. Tout ce qui brille n'est pas vrai. Tout ce qui scintille ne brille pas. La vraie beauté brille rarement, je trouve. Vois les diamants fracturés sur le sol. Beauté brisée, s'initiant à la violence. Les eaux boueuses cherchant la rive, à tâtons dans la brume. Vois les belles dames vêtues de pourpre, parlant des jours à venir, sans prendre garde, aux princes d'argent rutilant, une croix sur la poitrine, à l'écart, couronnée de papier, vraiment bénie. Un berger attend vêtu de laine. Les feuilles mortes flottent sous la pluie. Que la boue trempe mes vêtements. Je suis trop propre.
Mélanie Leblanc pour un poème de Karen Dalton. Merci Mélanie, un des poèmes qui t'a le plus touché d'ailleurs de Karen Dalton.
Je ne sais pas si c'est celui qui m'a le plus touché. En tout cas, il m'a un peu posé des problèmes de traduction celui-ci, pour entrer un peu dans les détails, parce qu'en fait il y avait le mot shepherd avec une majuscule, donc c'était proche du mot berger, mais ce n'était pas le mot berger. Et en lisant le livre de Pierre, j'ai eu le droit de le lire en avance, j'ai découvert qu'elle était amie avec le fameux Sam Shepard, le scénariste de Paris, Texas, de Wim Wenders. Et donc, je pense qu'il y a une possible allusion à Sam Shepard, mais j'ai quand même traduit par Berger. Voilà. C'est les petits plaisirs de la traduction et de vraiment découvrir une auteure en profondeur grâce à la lecture du livre de Pierre.
Some people say I got a psychedelic presence shining on the park with a bioluminescence. Down these city streets I see you coming from a foreign unknown. And this world ain't nobody's.
Enfin, la nuit s'achève. Enfin, la nuit s'achève. J'ai vieilli, tandis que la pluie tombait. Je te remercie pour ce souvenir et ce calme plein de paix. La pluie frappe les carreaux, mon amour a les yeux clos. J'essaie de composer une symphonie de joie. J'ai entendu le mensonge crier plus fort que jamais. Quel que soit le temps nécessaire à l'oubli, je le laisserai à ma porte. L'hypocrisie mène à l'indifférence. L'indifférence a un destin fatal. Le destin se faufile par derrière. Assez vite, il est trop tard pour faire route avec quelqu'un sans se sentir prise au piège.
La dernière poésie de l'émission de Mélanie Leblanc, accompagnée par Emmanuel Delaplanche et Thomas de Haumont, pour une émission marquée par la poésie et l'authenticité. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien, Pierre, en ce moment, de revenir aux sources et à tant d'humanité à travers la musique qu'on aime. Parmi ton histoire, ton périple, c'était très court, évidemment, une heure pour parler de ton livre et de ton périple aux États-Unis sur les traces de Karen Dalton. Tu étais en conférence au 106, justement, pour en parler. Tu nous as fait écouter pour la première fois un morceau qui s'appelle Woodstock Jam 1980, qui nous a tous surpris. Alors, comment tu as réussi à avoir ce morceau ?
Avec un de ses fameux témoins, donc en l'occurrence Peter Walker, qui a accompagné Karen sur les 20 dernières années de sa vie, quand elle était malade, quand elle a vécu très pauvrement, hein, il faut quand même appeler un chat, son ami Peter Walker était là pour aider sa vieille camarade Karen Dalton. Ils étaient tous les deux résidents à Woodstock, et quand Karen est morte, c'est Peter Walker qui a rassemblé ses affaires, les maigres effets qui lui ont survécu, et dans ces effets-là, il y avait ces fameux carnets, où on a pu repêcher ses poèmes, plusieurs écrits de Karen. Et puis, il y avait également quelques bandes enregistrées, des dernières jams qu'elle a pu donner avec des amis musiciens à Woodstock. Et ce morceau-là date, je pense, pouvoir dater de 85, éventuellement de 86. Quand on sait que le dernier enregistrement officiel de Karen Dalton, c'est 1971, il y a quand même, ces bandes-là ressurgies étaient très, très précieuses. Et moi, ça, pour cette conférence en 106, ça me paraissait important de partager ça, de surtout pas garder ça pour moi. Peter Walker me l'avait offert quand on s'est rencontrés, comme un présent, vraiment très fraternel, C'est un vieux hippie et il n'en porte pas que le nom, C'est vraiment quelqu'un qui est traversé par ces valeurs-là d'humanité, qui a été touché par cette démarche justement d'aller sur les traces de Karen et qui m'a offert ce morceau et parachever la conférence au 106 par le partage d'un morceau caché de Karen Dalton. Ça me semble être un moyen aussi de m'effacer moi et de la laisser elle prendre le dessus. Donc c'est ça un peu l'histoire de ce morceau. Il est indatable, le son en est assez précaire. Là encore, on peut parler de euphémisme, mais l'émotion elle est là, elle jaillit, elle prend tout, elle envahit absolument tout l'espace. Et Karen est forcément encore et toujours d'actualité quand on entend ça, ouais.
Thank you.
termine l'émission sur Karen Dalton avec cette magnifique jam. Merci à Pierre Lemarchand, à Mélanie Leblanc pour votre présence sur le plateau, pour une émission pleine de poésie, d'authenticité et d'émotion. Merci aussi à Emmanuel Delaplanche. Vous le retrouverez sous le nom de Trémolo. Ce sera mardi soir sur les ondes de Principe Actif à 20h. Merci à Thomas de Beaumont. Merci à tous les deux. Tu voulais les remercier aussi, toi, Pierre, de ton côté, parce que vous avez fait un petit bout de chemin, notamment au 106.
Ah oui, moi, je voulais remercier mes trois camarades, là, quand même, hein, Mélanie, et Thomas et puis Emmanuel, d'avoir été encore une fois à mes côtés. On était ensemble au 106. C'est important de se sentir plusieurs pour mener ce travail de mémoire autour de la musique et la personnalité de Karen Dalton. Quoi. Voilà, ça ne m'appartient pas. Ça nous appartient à tous. Donc déjà, on est quatre. C'est un bon petit noyau de départ. Merci à toi en tout cas de nous avoir invités.
C'était merci à vous, je le rappelle, ton livre Le souvenir des montagnes, la première biographie documentée et sur Karen Dalton chez Camion Blanc. On se quitte, hein. on n'est pas là pour être ici dans une minute. Merci à nos auditeurs, à dans 15 jours, salut.